Alors, bonjour à tous. Je suis heureux de vous revoir dans cette église. Merci de nous rejoindre malgré la température, malgré les difficultés aussi de circuler dans notre région. Eh bien, comme nous l'avons dit hier, ce week-end, nous avons le plaisir d'accueillir, de saluer notre frère Steve Taylor, un scientifique créationniste. Alors, je lui souhaite encore une cordiale bienvenue parmi nous cet après-midi. Et comme je l'ai dit hier, comme il l'a fait hier et comme il l'a fait ce matin, je suis convaincu encore une fois qu'il va mettre toute son ardeur à développer le thème de cet après-midi et aussi à être disponible pour tous et chacun pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, je vais prier, je vais lui céder la parole et il va répondre dans un premier temps à une question qui a été posée hier et après ça, il va pouvoir... commencer à vous parler des dinosaures et je pense que vous allez en sortir grandi et aussi renseigné par rapport à la parole et par rapport en comparaison avec aussi ce qui est véhiculé dans le monde. Je vous invite donc à prier. Prions. Père Céleste, nous voulons encore une fois que tu puisses nourrir, Seigneur, nos âmes cet après-midi, que tu puisses, Seigneur, à travers notre frère Steve, Seigneur, et bien à travers ta parole aussi, nous montrer, Seigneur, quel grand Dieu merveilleux tu es. Et pourtant, Seigneur, tu n'as besoin de personne pour vivre, Seigneur. Tu te satisfais à toi-même. Et dans ton amour, dans ta grâce, Seigneur, tu as décidé, Seigneur, depuis toute éternité, de choisir des hommes et des femmes comme nous, Seigneur, sauvés à travers la personne de Jésus-Christ. Eh bien, Seigneur, d'être avec toi pour l'éternité. Seigneur, merci encore une fois pour ta miséricorde, pour ta bonté envers chacun de nous. Et Seigneur, que tu puisses, encore une fois, comme je l'ai dit, nous nourrir à travers la bouche de ton serviteur Steve. Et tout cela, c'est pour la gloire de ton nom, je te demande en Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Encore une fois, les amis, c'est mon plaisir de vous parler cet après-midi. Et le sujet devant nous, c'est le sujet des dinosaures. Alors, je vais commencer avec un plan de l'exposé. Mais avant ça, j'ai promis aux enfants hier soir que j'aurais les vidéos des dinosaures. Alors, j'en ai quelques vidéos des dinosaures cet après-midi. La première, venez les amis, vous êtes juste à l'heure pour les vidéos des dinosaures. Et la première vidéo, j'ai déchargé de la BBC. Alors, il parle des milliers d'années. Je ne crois pas sur les millions d'années. Mais la BBC... sont forts à cela, et dans la présentation c'est séculaire. Alors, je vais commencer avec ça, et après nous allons considérer la question, est-ce qu'il y a les preuves pour l'âge biblique de la Terre? Et je crois que cela est démontré par la recherche récente, et pas si récente aussi, mais récente surtout, que l'âge biblique est correct. Mais nous allons commencer. Nous allons commencer avec un petit vidéo déchargé de la BBC. Alors, les dinosaures selon la BBC. Excusez que c'est en anglais.
Dinosaurs were just giant lizards, Simon. But a truly unique kind of reptile.
Dinosaurs roamed for more than 150 million years. Dinosaurs roamed in amazing shapes and sizes. Very few left evidence of their existence. And those bones never ceased to fascinate us.
The more we find, the more complete our understanding.
Voilà le monde du dinosaure selon les BBC. Alors voilà quelques. Si les enfants veulent savoir un peu plus, nous pouvons regarder le reste du vidéo un peu plus tard. Mais nous allons maintenant plonger dans le monde de dinosaures. Et je vais d'abord considérer pourquoi cette question est importante. Pourquoi cette question est importante? La controverse est simple. Il y a un point de vue biblique et il y a la pensée de nos jours aujourd'hui, des pensées du monde scientifique et moderne. Il y a aussi la question des fossiles. Okay? Il y a le monde dont nous habitons, c'est plein de fossiles. L'origine des fossiles, c'est une question très, très intéressante. ADN, tissu mou et même la carbone 14 ont été trouvés dans les os des dinosaures. Aussi dans l'histoire, alors le point crucial, l'ADN, le tissu mou et tout cela, un peu scientifique, pas trop, j'espère, mais le point concernant les dragons et les dinosaures dans l'histoire, c'est vrai, simple, complètement simple à suivre. Je vais vous montrer. Et après ça, quelques conclusions avec le message de la Bible magnifique que nous croyons dans cette Église. Que dit la Bible d'abord? Genèse 1, c'est un bon endroit à commencer. Et Genèse 1 nous dit que la création autour de nous, Dieu, il a fait en 6 jours, à partir de rien. Il n'a commencé avec quelque chose. Il n'y avait aucun matériel avant, mais c'était seulement Dieu, et il a créé tout de rien. Voilà son pouvoir. Voilà sa capacité. Et aussi, en 6 jours, c'est aussi répété, Genèse 1, c'est répété en Exode, chapitre 20, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve. Et ce passage de la Bible était le seul passage qui a été écrit par le doigt de Dieu. Le reste de la Bible, écrit par les hommes, inspiré par Dieu, animé par Dieu, sans doute. Je ne doute pas ça. Mais les 10 commandements, c'est Dieu lui-même qui les a écrits sur les pierres et lui, il a donné à Moïse. Le seul passage de la Bible écrit par sa main et aussi les Hébreux, lorsqu'ils étaient au monde de Sinaï, ils ont écouté, ils ont entendu la voix de Dieu. Ils ne pouvaient pas se porter. Après, avec tout ce qu'il y avait, ils ont dit à Moïse, « Tu parles avec nous, mais pas Dieu. » Et alors, ils ont entendu la voix, ils ont reçu les 10 commandements par les doigts, et dans les 10 commandements que Dieu a prononcés et qui a écrit pour nous, 6 jours, c'est clair. Si on croit la Bible, à mon avis, on ne peut pas échapper des 6 jours de la création. C'est clair pour nous. Dans Genèse, et aussi répété en Exode. Et si on ajoute les chronologies, Dieu nous a donné les chronologies en Genèse, chapitre 5, chapitre 11 de Genèse. Si tu ajoutes les dates, tu peux calculer la date de la création et l'âge de la terre, et c'est une question des milliers d'années, mais pas les milliards. Tu ne trouves aucune référence à des milliards d'années dans la Bible. Dans la science, oui, mais dans la Bible, non. Tu as un choix alors. Tu peux essayer de forcer des milliards d'années dans la Bible, ou l'autre choix que je choisis, c'est d'interpréter la science selon ce qui est écrit dans la Bible. Et voilà ce que nos ancêtres chrétiens, les grands savants comme Newton, comme Kepler, les autres savants des 17e, 18e siècle, ils croyaient tous, même Galiléo, ils croyaient tous dans un terre jeune. OK? La terre très, 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 très vieux, la vieille, est quelque chose qui est arrivé après Darwin et pas avant. Alors, ajoute les chronologies et tu arrives à un âge pour la Terre, à peu près 6000 ans avant maintenant. Plus ou moins 100 ans, dépendant comment tu fais le calcul. Mais c'est des milliers et pas des millions. OK? Selon la Bible. Le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Un jour, les gens, les pharisiens, ils ont posé une question à Jésus selon le divorce. Comment Jésus, il a répondu? Il a tourné, il a fait référence à Genèse. Il a dit, au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Il n'a pas dit, après des millions d'années après la création, Dieu a fait les hommes et la femme. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, au commencement, Dieu a fait l'homme et la femme. C'est évident que Jésus croit à Genèse. C'est évident que Jésus croit à Adam et Ève. C'est évident que Jésus, pour son enseignement concernant le mariage, il parle d'un seul homme et une seule femme. Il n'a pas parlé de deux hommes, deux femmes, ou un homme, cinq femmes, cinq, et non, un homme, une femme, ça c'est tout, selon Genèse. Et Jésus, il a basé son enseignement sur le livre de Genèse. Il le croyait. OK. Même les apôtres, l'apôtre Paul, il a dit, « De même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. » Voit l'ordre. Création, et alors péché, et alors la mort. Mais la théorie d'évolution a renversé. Création, millions d'années de mort. Parce que les fossiles, selon les évolutionnistes, c'est un record de la mort pour des millions d'années. Et à la fin, il y avait homme. Est-ce que vous pouvez voir que c'est incompatible ce que la Bible dit avec notre vue séculaire de nos jours? Les deux ne vont pas ensemble. Et si on essaie de mettre les millions d'années dans la Bible, il faut déchirer le message. Je vais vous montrer comment. Il n'a pas fallu des millions d'années de mort, de sang versé et d'évolution pour nous amener à la situation actuelle. Le monde a commencé très très bien, selon Genèse chapitre 1. Mais qu'est-ce qu'on trouve partout? Ici, j'ai noté ça. L'aéroport international de Pittsburgh, il y avait un gros dinosaure. Et voilà, juste ici, T-Rex, 65 millions d'années. Voilà l'âge qui est proposé pour le T-Rex. Ça fait 65 millions d'années avant l'an. Alors, selon cet musée, ou cet aéroport, cette démonstration d'un dinosaure, c'est un vrai dinosaure, les os. L'homme et les dinosaures sont séparés par une énorme temps de 65 millions d'années. Que dit l'évolution? Le temps, en effet, c'est le héros du complot. Si l'on considère une si longue période, l'impossible devient possible, le possible devient probable et le probable de virtuellement certain. Il faut seulement attendre le temps lui-même accompli des miracles. Cela a été écrit par une chimiste et Nobel lauréat, George Volt, et 1955, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le temps a créé. Alors, il a remplacé Dieu avec une longue période de temps. Mais pensez à ça. Si tu laisses quelque chose, par exemple la voiture, ta voiture, dans le jardin pour 1000 ans, ou 2000 ans, ou millions d'années. Qu'est-ce que est l'effet du temps? L'effet du temps, c'est de dégrader, pas de créer, n'est-ce pas? Le temps produit la dégradation par l'accomplissement d'une meilleure voiture ou meilleur dessin. C'est impossible, le temps. Et en effet, il y a une loi, c'est-à-dire la deuxième loi thermodynamique, qui qui modélise cela, qui représente cela selon les mathématiques. C'est très, très bien connu parmi les ingénieurs. Alors, le temps ne peut pas faire des miracles. Et c'est une faute de remplacer Dieu par une longue période de temps, comme il avait fait. Encore en anglais, le présent est la clé du passé. Qu'est-ce que Léa a fait? Il a mesuré, dans son époque, c'était les chutes de Niagara, il a mesuré la taux de la croissance dès la chute, parce que la chute, elle coupe les rochers, elle érode les rochers, et il a mesuré, alors, en 5 années, il y a ça, en 10 années, il y a ça, quelle distance? Voilà, ça fait une distance de 30 000 ans pour faire les chutes de Niagara. Mais, il a fait les assumptions, n'est-ce pas? Il a fait une assumption que la quantité de l'eau, était toujours la même. Il ne savait pas, c'est une assumption, il ne peut pas prouver. Et aussi que les conditions géologiques ont resté les mêmes. Il ne peut pas prouver ça non plus. Mais par cela, sans méthode, de mesurer quelque chose dans le présent et faire une extrapolation dans le passé, c'est souvent utilisé par les géologiques séculaires. OK. Et le point crucial pour chacun de nous, le point crucial, est-ce que la Bible est fiable? L'inhérence biblique requiert l'historicité des récits. Si je ne peux pas faire confiance à la première page de la Bible, comment puis-je être sûr de la véracité du reste? Ça, c'est la question. Est-ce que votre Bible est vraie ou non? Ça, c'est la question. Et est-ce qu'il y a une preuve scientifique contre les millions d'années? Alors, voilà le colon géologique. Tous les enfants ont vu le colon géologique, peut-être les adultes aussi. Voilà le colon avec ici les millions d'années, le Cambrien, voilà le Jurassique, la période des dinosaures, Triassique et le Jurassique. Jusqu'à maintenant, et l'homme, il est apparu ici. Et les fossiles que nous trouvons sont interprétés selon cette longue période de temps. Mais ça implique que la Terre est vieille, et aussi il y a la mort avant l'apparition de l'homme. Tous les fossiles sont morts ici, tous les fossiles sont morts. Et alors, c'est évident que la mort existait avant l'apparition de l'homme, selon la science moderne, contre ce que nous avons lu dans la Bible. Qui a raison? Ça, c'est la question devant nous. Et qu'est-ce qu'est l'origine des fossiles? Alors, regardons un fossile. Voilà le fossile d'une méduse. Si une méduse meurt dans la mer, en quelques heures, il a complètement disparu. C'est si fragile. Mais maintenant, tu peux voir le fossile, une méduse fossilisée en rocher sédimentaire, c'est-à-dire le rocher qui est mis en place par des eaux. Et pour fossiliser une méduse, il faut que la méduse soit ensevelie et préservée par une situation catastrophique. Et le plus grand de l'animal, la plus grande, la quantité d'eau et de rochers sédimentaires il faut pour faire le fossile. Alors, tu peux trouver les couches sédimentaires, c'est-à-dire déposées par l'eau, dans le monde entier. Si tu regardes la géographie, la géologie du monde, tu peux voir une couche sédimentaire partout qui contiennent les fossiles. 95% des fossiles sont d'origine marine, la plupart en effet, les coquillages et ainsi de suite. un peu moins de 5% les algues, les plantes, et une proportion qui est petite assez, les squelettes de dinosaures, les poissons, les vertébrés. Et voilà la meilleure explication pour tous les fossiles, c'est donné aussi dans la Bible. La meilleure explication aux conclusions tirées de l'observation des fossiles est une inondation qui a détruit les continents et leurs habitants. Est-ce qu'il y a une telle inondation dans la Bible? Oui. Chapitre 6, 7, 8, 9 de Genèse, on a un récit, un témoin oculaire, d'un témoin oculaire qui était là sur place, qui a écrit pour nous ces chapitres. Et qu'est-ce qu'on trouve si on lit Genèse chapitre 8 ou 7 ou 6? Oui, c'est le déluge de Noé et c'est comme un agenda. Il dit, nous sommes entrés dans l'arche. 40 jours après, le déluge est arrivé. 150 jours et encore 300 jours. Il donne, voilà ce qui est arrivé. Chaque jour après jour pour le déluge. Lila, tu trouves un récit de quelqu'un qui était sur place. Et aussi, dans les autres cultures, au Moyen-Orient, aussi en Chine, en Afrique, aux États-Unis, en Australie, on trouve tous, ils ont leur mythe, leur légende d'une grande inondation qui a inondé un grand déluge qui a inondé toutes les civilisations. On trouve pas mal d'inondations. Et la Bible est claire aussi. Dieu lui dit, et quant à moi, je vais faire venir le déluge sur la terre pour détruire toute chair qui est sous le ciel à souffle de vie. Tous qui est sur la terre périra. Et dans le record des fossiles, on voit le résultat de cette intention. En effet, Dieu, il a jugé l'ancien monde et les fossiles sont un record, sont un témoignage du jugement de Dieu. Je me demande, est-ce que ça c'est la raison pourquoi l'homme moderne ne veut pas croire à la déluge? Parce que c'est un record, ça prouve que Dieu, il juge le péché. Alors, il y a pas mal de chrétiens qui pensent que c'est un déluge local, c'est-à-dire dans un petit coin. Mais en effet, pourquoi Noé avait-il été commandé de bâtir un grand bateau, un arche, si c'était un déluge local? Il faut simplement acheter quelques chevaux, quelques chars et déplacer de l'autre côté de montagne. Il n'était pas commandé de faire ça. Il était commandé de faire une arche en énorme, 150 mètres, et de prendre les représentants de chaque bétail qui était sur terre. Dieu lui a aidé avec cela. L'entreprise a duré plus que 100 ans. Et tout le temps, Noé il fait ses prédications au monde où il habitait, sans succès, parce que c'est seulement lui et sa famille qui sont entrés dans l'arche. Et le déluge est venu, et le monde entier était jugé par ce déluge. Et les fossiles, partout au monde, même dans les montagnes des Himalayas, okay, Everest, il y a des fossiles marines en Everest, je l'ai vu. Alors ça montre que l'inondation de Noé était globale. Toutes les autres montagnes qui sont sous le ciel furent couvertes. Qui a dit ça? C'était Dieu qui a dit ça, selon le livre de Genèse. Le Seigneur Jésus-Christ, il a confirmé que le déluge était réel. Il a dit, ce qui arriva au jour de Noé arrivera, le déluge vint et les eaux virent tous périr. Et il a fait une comparaison. Avant le jugement dans le passé du monde, il a dit, il y a un autre jugement qui va arriver dans le futur. C'est la fin du monde, de notre monde. Et Seigneur Jésus, il a fait référence, une comparaison avec le jour de Noé et le jour à la fin du monde. L'apôtre Pierre, il a dit, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Alors, c'est partout dans la Bible. La Bible, elle est consistante. L'Ancien Testament, Seigneur Jésus, les Évangiles, Nouveau Testament, il est consistant partout. Alors, s'il y a des théologiciens qui essaient de mettre les idées de la science en Genèse, le bataille, ce n'est pas avec Genèse seulement, c'est avec le Seigneur Jésus et avec les apôtres qui dit autrement. OK, maintenant un peu de science. Un fossile de Tyrannosaurus bata. Il est réel, il est grand, il est terrible. Il va vous manger s'il était vivant. Mais qu'est-ce qu'on a trouvé? Récemment, pendant les derniers 20 ans, on a trouvé la conservation des tissus mous dans les dinosaures comme lui. On a trouvé même les protéines et les chimiques fragiles qui correspondent avec l'ADN dans les os des dinosaures qui n'étaient pas fossilisés. Et aussi, moi-même, j'ai fait cette expérience, nous avons daté les os des dinosaures par le carbone 14 et on a trouvé les vestiges des carbone 14 dans les os des dinosaures qui prouvent que les os ne peuvent pas avoir une âge de des milliards d'années. C'est impossible s'il y a de carbone 14 dans les os. Et aussi, nous allons considérer les représentations des connaissances des dinosaures dans l'Antiquité. OK, le tissu mou. Qu'est-ce que c'est le tissu mou? Voilà le tissu mou. Tu peux toucher, tu peux tirer. Et qu'est-ce qu'on pense des tissus mous? Les vaisseaux sanguins flexibles, okay? Les cellules sanguines, les protéines ADN contenues dans les os des dinosaures sont compatibles avec une datation en milliers d'années, selon la Bible, de ces fossiles et non avec les 65 plus millions d'années. Voilà, il y a toutes sortes d'articles dans la presse séculaire et aussi dans les journaux séculaires. Et pendant les derniers 5-6 ans, j'ai fait moi-même mes propres recherches chez nous à Liverpool dans ce sujet parce que c'est vraiment intéressant. OK, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est exactement le tissu mou. C'est un extrait avec une scientifique qui s'appelle Mary Schweitzer.
There's something about dinosaurs that captures the imagination. Giant, mysterious animals that roamed the earth for millions of
Je
years,
couper.
Now gone forever. All they've left us are their fossils, the dried out mineral remnants of the creatures they once were, with the organic material that gave them life long gone. This are their fossils, the dried out mineral remnants of the creatures they once were. With the organic material that gave them life long gone, or so everyone always thought. That it.
Je vais maintenant couper.
There's something about dinosaurs that catch.
Voilà, l'os d'un
a bone called medullary bone, which female birds produce when they're about to lay eggs. No one.
OK, voilà la scientifique. Je vais traduire en français. Mary Schweitzer, elle a regardé par le microscope un os non fossilisé d'un dinosaure et elle a laissé, par accident, on a laissé l'os dans une acide pendant la nuit. Et qu'est-ce que va arriver après, lorsqu'il a mis sur le microscope? Voilà l'os dans l'acide qui a enlevé toute la boue et le rocher. Et le tissu mou a resté. Regarde. Ça, c'était le tissu mou d'un dinosaure. Et c'est ça qui est complètement choquant. Et même La dame qui fait l'interview, elle ne peut pas croire. Et la scientifique lui-même, elle ne peut pas croire. Elle a répété, et en tout, on a fait 17 expériences pour prouver que cette tissu a été vrai. Et on a regardé, si vous comprenez anglais, je peux vous montrer le lien pour, vous pouvez regarder ça un peu chez vous. Voilà les vaisseaux sanguins. Voilà les petits bouts de sang des dinosaures, le sang des dinosaures là-dedans. Lui, il ne pouvait pas croire. C'est son patron. Il était choqué. Elle était choquée. Alors, tout le monde était choqué par ce qu'ils ont trouvé. Mais maintenant, il y a pas mal de scientifiques qui ont fait la même expérience. Et nous avons fait la même expérience avec les os que nous avons vus. Voilà le tissu mou dans les os des dinosaures. Voilà aussi le vaisseau sanguin. Et regarde, il est tous là. Oui, on peut bouger. C'est publié dans les meilleurs journaux techniques et c'est une controverse qui joue maintenant. Possibilité, contamination et toutes sortes de choses. On a fait encore des expériences pour déprouver tout cela. Les tissus mous, c'est bien réel. OK. Regarde, alors... En une citation de Mary Schweitzer, c'est exactement comme si je voyais la coupe d'un os moderne. Elle regardait le dinosaure. Mais bien entendu, je ne pouvais pas le croire. J'ai dit aux techniciens de labo, on fait ces os en 65 millions d'années. Comment des cellules sanguines pourraient-elles subsister si longtemps? Il faut dire que Mary Schweitzer et son équipe, ils croient toujours dans cette longue période. Ils sont des évolutionnistes. Mais l'explication qui est beaucoup plus facile, c'est que les os ne sont pas si âgés que ça. C'est beaucoup plus facile d'expliquer ce que nous avons trouvé si on propose un âge qui est beaucoup réduit selon ce que dit la Bible. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Elle essaie de trouver les explications comment les tissus mous peuvent être préservés pour 65 milliards d'années. Mais c'est presque impossible de le faire parce que toutes les évidences, toutes les preuves que nous avons prouvent le contraire. Si l'ADN, le collagène, les protéines, ils dégradent très très vite. Alors, si quelqu'un est enseveli dans votre jardin, j'espère que non. Mais après 100 ans, disparaît. Après 1000 ans, aucune trace. Mais ici, 65 milliards d'années, non. C'est possible, c'est difficile de croire qu'ils ont vécu il y a 3000 ans, selon la Bible. Mais on a trouvé ces dinosaures en Montana, en Alberta, où il est comme un congélateur. Okay? Et le plus froid, le meilleur là. La préservation. C'est ça que nous avons trouvé. Voilà nos expériences à l'Université de Liverpool. Brian Thomas était mon étudiant doctoral. Il a complété son thèse cette année. C'est dans la bibliothèque de l'Université de Liverpool, la librairie de l'Université de Liverpool. Alors, tu peux décharger, tu peux examiner pour vous-même si vous voulez savoir davantage. Voilà, nous avons fait image de collagène dans l'os moderne. Le même technique, l'image de collagène dans un os d'un tricératops. Voilà le collagène, c'est dans tous nos os, et on a trouvé le même. C'est beaucoup réduit, alors c'est plein ici, mais ici, c'est toujours là, dans les os d'un tricératops, qui est un os de dinosaure. Ça, c'est nos propres expériences que nous avons publiées. OK. Encore une fois, un peu de science. Charbon 14, qu'est-ce qui va arriver lorsque quelque chose est mort? Un organisme mort ne consomme pas de nourriture. Vrai ou faux? Faux ou vrai? C'est vrai, n'est-ce pas? Le carbone se décompose plus et sans être remplacé. Alors, le carbone 14 est ici et avec une demi-vie de 5730 ans. après 5730 ans, moitié est partie, encore cette période, une autre moitié, encore cette période, une autre moitié. Le limite de détection, c'est-à-dire 100 000 ans. S'il y a carbone 14 dans l'os, ça ne peut pas être plus que 100 000 ans. Alors, il ne peut pas avoir plus que ça. C'est la limite de détection de cette technologie. Et qu'est-ce que nous avons trouvé? Si les dinosaures se sont éteints il y a 65 millions d'années, on ne trouvera plus de traces de carbone 14, mais il y en a. Et nous avons testé plusieurs dinosaures des États-Unis, de l'Europe et de Chine aussi, qui ont montré le carbone 14. Et si vous voulez savoir davantage, voilà le lien. Tu peux regarder ça pour vous-même. Voilà la liste. Alors, c'est difficile à rassembler tout cela, mais les os de dinosaures trouvés en USA, aussi en Belgique, il y a un mosasaure trouvé ici en Belgique, en Wallonie, qui contient la quantité mesurable de carbone 14. OK. Maintenant, quelque chose qui est un peu plus facile à comprendre. Les dinosaures dans l'histoire. Voilà un temple cambodgien datant de 1146 ans après Jésus-Christ. Thap Rom. Tu peux visiter. Mon beau-frère, il a visité il y a 2 ans. J'ai vu, est-ce que tu as vu le dinosaure? Il a dit oui, j'ai vu le dinosaure. Et c'est dans une colonne du temple. Tu peux voir ça. Alors, je vais demander aux enfants, c'est quelle espèce de dinosaure? OK. Quelle espèce de dinosaure? Il y a quelqu'un qui le sait? Oui, toi? Oui, stégosaure. Oui, tu peux reconnaître sans aide de moi, n'est-ce pas? Parce que tout le monde connaît, s'il connaît les dinosaures, il connaît un stégosaurus. Mais comment le sculpteur, il a fait sculpter ça si les stégosaurus ont été éteints 65 milliards d'années avant lui être sur la Terre? Comment il peut faire ça? C'est impossible, n'est-ce pas? Et aussi, si tu regardes un peu plus haut, ici ou ici, tu vois les singes, OK? Les sangliers, les autres animaux du jungle. Et voilà, il a sculpté les animaux du jungle autour de lui pour décorer le temple. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le jungle? Celui-là. Il a sculpté celui-là aussi. Ça, c'est la meilleure explication. Il n'a pas visité le musée à Paris ou à Bruxelles pour regarder les dinosaures qui ont été éteints il y a 65 millions d'années. Non. Il a vu un dinosaure dans la forêt, alors il a sculpté. Et c'est là. Tu peux le visiter. Tu peux prendre les photos. Et le guide dans ce temple, il est très fier de vous montrer son dinosaure. Il y a d'autres exemplaires en l'histoire. Cet conte est trouvé dans l'histoire des Romains. Alors, un jour, alors que Régulus, un consul romain, c'est le 3e siècle avant Jésus-Christ, luttait contre Carthage, okay, c'est une grande ville en Afrique, un dragon apparut soudainement et se dressa derrière l'armée romaine. Sur l'ordre de Régulus, alors le Carthaginien, il essaie de chasser l'armée romaine par ce dragon. Sur l'ordre de Régulus, les Romains le tuèrent, le dépassèrent et l'envoyèrent le pot au Sénat romain. Lorsqu'on le mesura sur l'ordre du Sénat, on découvrit avec surprise que la longueur était de 120 pieds et que l'épaisseur correspondait à la taille. C'est une bête énorme. Qui a une longueur de 100 pieds et qui peut utiliser pour chasser un ennemi? Un dinosaure, n'est-ce pas? Alors, ce conte qui a été raccordé par ce Jean le Damascène, alors il était un père de l'Église, était un vrai conte, Et voilà un exemplaire d'un dinosaure, un dragon en histoire. Saint Georges, qu'est-ce qu'il a tué? Un dragon, mais peut-être c'est un dinosaure. Et dans la Bible, livre de Job, selon la traduction Louis II, voici l'hippopotame. Mais est-ce que c'est vrai, cette traduction? En hébreu, le parole c'est behemoth, grand bête. Voici behemoth, à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés, ses os sont des tubes d'airain, ses membres sont comme les barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu. Dans ce parti de Job, Dieu, il pose à Job 77 questions selon sa création. Et ici, il pose la question à Job. Job, voilà la plus grande bête que j'ai créée. Si tu ne peux pas réussir contre lui, comment tu peux me résister? Voilà le message de Job 40. Et Dieu, il fait comparaison de Job, devant les yeux de Job, avec ce grand bête et avec sa puissance qui a créé le bête. Maintenant, nous avons découvert les dinosaures qui ont 39 mètres de longueur, 90 tonnes métriques, les Argentinosaurus, les plus grands des dinosaures. Qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent de l'herbe. Alors, la description que Dieu donne à Job correspond avec une énorme Argentinosaurus, une énorme bête, avec une queue qui est comme là, un arbre. Et si la queue d'une Argentinosaurus, un Diplodocus, si la queue va te frapper, alors vous ne serez pas debout parce qu'elle est forte. OK, nous allons faire des conclusions et je vais ouvrir pour les questions. La Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau parlent d'une terre jeune et non des millions ou ni des milliards d'années, des morts et des souffrances avant l'homme. C'est inconnu ça dans la Bible. Les dinosaures sont maintenant probablement éteints, disparus, mais nous en avons les rapports écrits par les témoins oculaires dans l'Antiquité, c'est-à-dire les dragons. L'observation des dinosaures ne cadre pas avec une terre vieille de plusieurs millions d'années. Exemple, les cellules sanguines dans les os de dinosaures, les tissus mous des dinosaures, la datation au carbone 14 des os de dinosaures, etc., que nous avons considéré cet après-midi. La datation est basée sur les observations et cohérente avec la Bible, une création de rien. Il y a des milliers, pas des millions ou des milliards, mais des milliers d'années, une déluge planétaire au cours duquel les couches sédimentaires se sont déposées rapidement avec la formation des fossiles, les dinosaures compris. Voilà pourquoi tu peux trouver les tissus mous aux dinosaures en Chine, en Belgique, aux États-Unis, au Canada. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous tués, fossilisés, pas complètement, le même temps, pendant le déluge. Et voilà pourquoi nous trouvons les tissus mous dans chacun de ces échantillons. Alors, l'homme et les dinosaures ont vécu ensemble. Et vous pouvez et vous devez croire ce que la Bible dit selon la volonté de son auteur divin. Dieu veut que nous croyions sa parole. Et encore une fois, je termine avec le message fantastique de l'Évangile. Il y a un Dieu. Ce Dieu, il y a un Dieu qui est capable de juger le monde comme il a fait pendant le jugement de Noé, mais il est un Dieu qui veut sauver le monde. Et Jésus-Christ est venu, pas pour juger, mais pour sauver. Dieu lui a donné pour qu'il nous sauve. Et par sa mort sacrificatoire sur la croix, Jésus a pris nos péchés et il a pris la punition pour nos péchés. Il a souffert à notre place. Il n'est pas resté mort, il a vaincu le péché et la mort. Le péché qui est entré par Adam et la mort qui est entrée par Adam a été vaincu par Jésus. Il est le dernier Adam et il est le nouveau, la nouvelle humanité en lui. Alors il a donné sa vie pour nous sauver et quiconque croit en lui ne périsse pas. Il y aura un autre jugement. Il y a la perdition éternelle ou le ciel éternel. Si nous croyons en Jésus-Christ, on peut éviter la perdition éternelle que nous méritons et peut avoir la vie éternelle que nous ne méritons pas. Mais voilà le message de l'Évangile de Dieu. Et voilà, voilà comment cette présentation, c'est-à-dire la défense de Genèse, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de gens qui n'arrivent pas à croire ou même à lire l'Évangile de Jean. Pourquoi? Parce qu'ils sont troublés par les premières pages de la Bible. Ils n'arrivent pas à prendre la suite. Et alors, pour ceux qui, dans leur formation scientifique, c'est un problème de croire la Bible, voilà une réponse qui peut aider les gens de croire le message. Alors, merci de m'écouter. Excusez mes fautes de grammaire. J'espère que je vous avais compris ce que je vous ai dit. Et alors, c'est ouvert pour les questions maintenant. Jacques.
Je ne sais pas si je sors du contexte. L'homme préhistorique.
L'homme préhistorique. Alors, l'homme préhistorique, il faut mettre l'homme préhistorique selon la Bible. Comme j'ai dit hier soir, nous avons visité Papouasie, il y a quelques années maintenant. C'est un tribu, soi-disant, dans l'âge de pierre. C'est-à-dire dans les petits houttes construits, les cabanes dans la forêt. Ils tuent les animaux devant eux, avec les lances, il tue les sangliers, c'est juste comme nous lisons le Stone Age, c'est-à-dire l'âge de pierre. Ils étaient vivants aujourd'hui dans certaines tribus dans la forêt, dans le jungle, qui n'ont jamais entendu de Jésus. Maintenant, leur communauté était transformée. Ils ont une école, un petit hôpital, une église dans le village. Pourquoi? C'est transformé par le Seigneur, par l'Évangile. Mais dès l'âge de pierre, vers le 20e siècle, ils ont même les portables et ils écoutent l'Internet maintenant pour décharger les lettres. Ils savent lire la Bible. Alors tout cela, ils ont des instruments. Ils sont juste une communauté comme vous, sauf qu'ils n'ont pas les habits et la nourriture belge. Ils ont leur propre nourriture. Mais ils ne sont pas si civilisés que vous. Mais quand même, ils ont, en 10 ans, l'Évangile a changé cette communauté. Mais la réponse à ta question, Jacques, c'est que l'âge de pierre, les hommes de préhistoire, ils sont toujours chez nous. Et c'est juste les hommes qui n'ont pas été éteints par le message de la Bible. C'est ça. Et l'âge, les hommes singes, je vais parler aux hommes singes ce soir. C'est un mythe, complètement. C'est une fable. Il n'y a pas des hommes singes. Il y a des singes, il y a des hommes. Les squelettes de sages, squelettes des hommes. Il n'y a pas des hommes singes. C'est un mythe complet. Je vais vous prouver ça ce soir si vous êtes disponible. OK. Alors. OK. Madame. Toujours l'homme. Plus civilisé que nous. C'est-à-dire, si tu rencontres Adam avait toute la capacité que nous voyons autour de nous maintenant. Une rivière ne peut pas aller plus que sa source. Alors, qui est l'homme le plus vite? Usain Bolt, il a l'ADN de Usain Bolt était en Adam. Qui était l'homme le plus fort? Je ne sais pas. Mais l'ADN pour lui était en Adam. Il a l'ADN de toute sa race. Nous sommes tous les descendants d'Adam. Alors, Adam, qui est l'homme le plus intelligent? Einstein, peut-être? Alors, Adam avait l'ADN d'Einstein là-dedans. Il était fort, puissant, vite. Il était le top. Il était le capitaine de notre race. Alors, lorsqu'il est tombé en chute, nous, en lui, nous sommes tombés aussi. Et chacun de nous, nous sommes tombés dans le péché jusqu'à Jésus. Lui, il n'était pas un descendant d'Adam. Il était un descendant par sa mère, mais lui, il était conçu du Saint-Esprit. Il était un homme qui vient du ciel. Il était la nouvelle humanité. Maintenant, pour devenir chrétien, il faut que je quitte Adam et ses péchés et je suis né de nouveau en Jésus-Christ. En Adam, nous mourons, toi et moi. En Jésus-Christ, nous vivons pour l'éternité. Et voilà l'évangile. Et si on détruit Adam, on détruit la raison pourquoi Jésus est venu. Voilà l'importance de cette question. Merci pour la question. Adam.
Quand Caïn a tué son père Abel, il a été chassé, il avait déjà du monde apparemment puisqu'il avait peur qu'on le tue. Comment cela se fait-il?
Oui, parce que si tu la réponse aussi, c'est dans les quatre, les premières pages de ta Bible, c'est-à-dire qu'il est marqué que Adam et Ève, ils étaient donnés le commandement par Dieu d'être fructueux, de multiplier. Adam, il a vécu, selon la Bible, 930 ans. Même s'il avait un enfant chaque 2 ans, qui n'est pas difficile, même pour nous, alors il y avait des centaines de fils et de filles. Alors il y avait toute une communauté après 500 ans, parce que eux, ils vécurent pour 30, 40 ans, ils prennent un de ses sœurs ou frères ou quoi que ce soit. Et alors, il y avait une communauté de milliers de gens après 500 ans, comme ça, selon les données qui sont parmi nous dans la Bible. OK. Alors, la madame qui a posé la question hier soir, c'est toi, madame? Est-ce que c'est une... La raison pour cette présentation, c'est pour bien répondre à ta question que tu as posée hier soir. Merci pour la question. C'est-à-dire pour donner les datas scientifiques qui ne correspondent pas avec une terre ancienne, mais qui soutiennent l'âge biblique du monde. C'est ça, voilà pourquoi j'ai fait la présentation. Ça. Oui, c'est tout. Merci beaucoup. Mais c'était comme ça pour moi aussi. Comme jeune chrétien, j'avais vraiment la difficulté à croire parce que nous étions entraînés par la science. Nous croyons 100% pour la science. Mais lorsque la science contredit contre la Bible, c'est vraiment une difficulté, surtout pour les jeunes parmi nous aujourd'hui, dans les écoles, dans l'université. Mais il faut maîtriser ce qu'ils vous ont enseigné dans l'école, mais aussi il faut avoir l'explication selon la Bible. C'est bien possible et c'est très satisfaisant parce que la recherche d'aujourd'hui avec les tissus de dinosaures, les scientifiques ne savent pas expliquer avec une longue période de temps. Ce n'est pas explicable, mais c'est très, très explicable si les dinosaures en récent que il y a d'autres preuves qui le disent. Dernière chose à dire, c'est que normalement, lorsqu'il y a, si tu regardes l'histoire de la science, chaque centaine d'années, il y avait le plan en anglais paradigm shift, je ne sais pas traduire en français, shift dans le paradigme de science. Et je crois que, j'espère que les tissus murs dans les dinosaures va provoquer tout un déplacement radical dans la science aussi. J'espère pour ça. Et ça commence parce que même il y a pas mal de sécularistes que j'ai mis l'évidence, la preuve des tissus murs. Ils n'ont pas une référence. Et ils sont troublés par ça. Il y a de plus en plus maintenant qui font la recherche dans ce domaine. Et si la science est vraie, si elle marche, si elle soit honnête, il y a une question là-dedans, mais si les scientifiques traitent les questions comme il faut traiter, c'est-à-dire avec un esprit ouvert, j'espère et je suppose et je suis convaincu qu'il y a certains d'eux qui vont accepter le fait que les milliers et milliers et millions d'années, c'est un théorie. Simplement, ce n'est pas la vérité absolue. Et pour nous, les chrétiens, nous pouvons insister sur la véracité de la Bible. Alors, j'ai parlé trop. Je laisse la parole avec Jacques pour terminer.
Merci encore une fois pour Austin. Je pense qu'on peut applaudir le Seigneur pour avoir envoyé un homme comme ça.